France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Comme les cirques, je crois qu'il ne reste plus beaucoup de cirques qui font encore des spectacles d'animaux. Je pense que les zoos sont condamnés, à part quelques réserves pour la reproduction d'espèces menacées. Mais sinon, ça n'a aucun sens.
Aujourd'hui, les parcs zoologiques sont vus comme des institutions de conservation à part entière, et pas simplement dans la réintroduction d'espèces, mais en tant qu'un des plus grands financeurs de la conservation des espèces en milieu naturel.
L'avenir de nos parcs animaliers, c'est vraiment de pouvoir offrir ce comportement naturel de l'animal, en semi-captivité bien entendu, mais d'avoir ce comportement sauvage qui est à l'origine de tout ce qu'est l'animal.
Émerveiller et faire aimer les animaux sauvages pour impliquer les futures générations dans la protection de la faune et de la nature. Telle est la vocation revendiquée par le zoo de la Flèche dans la Sarthe. Dans l'Aude, la réserve africaine de Sigean affiche elle aussi ses valeurs, à commencer par la conservation des espèces en voie de disparition. Et à Lumigny, en Seine-et-Marne, le parc des félins appelle les visiteurs à se mobiliser pour sauver les tigres en soutenant des ONG qui luttent contre le braconnage. Dans un zoo digne de ce nom, dites d'ailleurs plutôt éco-zoo ou bioparc, plus question aujourd'hui de voir un loup au poil terne tourner inlassablement en rond dans sa cage. Chaque site vante l'espace dont disposent ses pensionnaires, la façon dont leur habitat naturel a été restitué, sans oublier l'équipe de soigneurs mobilisés pour le bien-être des lions, des gorilles ou des serpents. Effet de communication ou implication sincère, ces évolutions sont-elles communes à tous les parcs animaliers et répondent-elles vraiment aux attentes du public ? La MU des parcs zoologiques, c'est un reportage signé François Chagnot. Dans Grand Reportage, nous accueillons aujourd'hui Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l'environnement. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée au laboratoire Sphère à l'Université de Paris. Votre dernier livre paru chez Delachaux et Niestlé s'intitulait « Histoire de la domestication animale ». Et bonjour Éric Baratet.
Bonjour.
Professeur d'histoire contemporaine à l'Université Jean Moulin, Lyon 3, spécialiste des relations entre les hommes et les animaux. Vous êtes en direct de Lyon. Je cite aussi l'un de vos livres récents, Culture féline, les chats créent leur histoire, paru aux éditions du Seuil. Alors le reportage de François Chagnot va nous permettre de visiter ensemble quelques zoos assez rapidement. Bonjour François.
Bonjour Aurélie.
Si les parcs animaliers évoluent, c'est au rythme, François, des changements de loi et de mentalité.
Et oui, et comme souvent Aurélie, les évolutions de la loi permettent de jauger l'évolution des mentalités, des débats de société et la prise en compte du bien-être animal, que ce soit dans les élevages, à la maison ou ici, ce qui nous intéresse aux zoos, ça reste un phénomène très récent. On peut citer la loi contre la maltraitance animale, votée à la quasi-unanimité en novembre 2021. Et c'est ce texte qui prévoit notamment l'interdiction d'ici 5 ans de présenter des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums. En 2015, c'est le Code civil qui est modifié. Il indique depuis que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Enfin, dernier repère, on remonte à 1973 et la signature d'un accord international majeur, la Convention de Washington, qui régule le commerce des plantes et des animaux sauvages pour qu'ils ne menacent pas la survie de leurs espèces.
Nous commençons notre visite par la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Elle a été fondée en 1794 et au départ, c'était pour accueillir les derniers animaux de la ménagerie royale de Versailles qui avait été abandonnée à la Révolution.
Alors ici, on se trouve quasiment en plein cœur de Paris, devant l'entrée de la ménagerie du zoo du Jardin des Plantes. Cette ménagerie du zoo du Jardin des Plantes, faut l'imaginer coincée entre le quartier latin de Paris et puis les quais de Seine du côté de la gare d'Austerlitz. Et donc entre les autruches et les wallabies, eh bien, vous l'entendez là, quelques mètres devant moi, il y a une route très fréquentée, avec trois voies de circulation.
Bonjour. Alors, je m'appelle Michel Saint-Jalme, je suis enseignant-chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et j'ai le grand honneur d'être le directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes, qui est l'un des plus anciens zoos au monde. Alors ici, nous sommes, si on peut dire, au cœur de la ménagerie, puisque nous sommes au pied de la Rotonde, qui est le premier grand bâtiment qui a été construit dans la ménagerie entre 1802 et 1812. Donc c'est un bâtiment qui au départ était construit pour abriter les féroces, sachant qu'au XVIIIe siècle, on n'avait pas beaucoup d'idées de la manière dont on devait abriter des félins, ni même de comment s'en occuper, comment les nourrir. Donc on avait construit un bâtiment sans se préoccuper de leur bien-être. Et on s'est aperçu très vite que ce n'était pas un bâtiment adapté. En revanche, il était pas mal pour recevoir des grands herbivores. Donc le premier animal qui sera hébergé est un éléphant qui s'appelait Pariki, qui avait été confisqué quelques années plus tôt par les armées de la Convention à Arnhem quand l'armée française était allée aider les Hollandais à faire leur propre révolution. Et donc c'est la révolution qui a créé donc cette ménagerie.
La faune de la ménagerie a beaucoup changé. On ne voit plus du tout les mêmes types d'animaux. Je ne crois pas qu'il y ait d'éléphants aujourd'hui au Jardin des Plantes. Comment est-ce qu'on explique justement ce changement de faune en particulier ?
La ménagerie a commencé à se modifier dès 1930. Le muséum construit au bois de Vincennes un nouveau zoo qui sera inauguré en 1936, le parc zoologique de Paris. Et les girafes de la ménagerie vont partir au parc zoologique de Paris. Donc on s'aperçoit déjà que les espaces sont trop petits pour héberger les grands mammifères. Le dernier éléphant va mourir à la ménagerie en 1976. En 2003, le dernier lion, le dernier ours partira des fosses qui avaient été construites en 1805, en 2004 pour le zoo de Thoiry. Et progressivement, on a transformé le zoo pour donc remplacer les espèces de grande taille par des espèces de petite taille. On peut aller voir les anciennes fosses aux ours. Ben là, nous sommes devant les fosses aux ours. Jusqu'en 2004, vous n'aviez aucune structure qui permettait aux ours de faire autre chose que tourner en rond au fond de l'enclos. À partir du moment où on a fait partir le dernier ours, on a construit dans l'enclos des structures verticales et on a hébergé à la place des ours des petits carnivores, comme là en face de moi un panda roux, dont la taille est beaucoup plus adaptée à la taille de l'enclos, et on a construit ces structures verticales qui sont adaptées à son comportement arboricole. Voilà, en face de nous, à 4 mètres, on a un panda qui mange des bambous face au visiteur et à hauteur des yeux du visiteur. Donc la construction de cet enclos à deux objectifs. Le premier, le bien-être de l'animal et donc ses besoins. Et le deuxième, créer une relation entre le visiteur et l'animal dans le respect du bien-être de chacun. Il ne s'intéresse pas à nous, il s'intéresse simplement à ces feuilles de bambou qu'il est en train de déguster.
Comment est-ce que vous devez composer autour de ce patrimoine historique ?
Vous auriez été dans un zoo qui n'aurait pas été un zoo historique, on aurait peut-être bouché ces zones et puis on aurait créé un enclos au-dessus, une grande volière ou je ne sais pas, enfin on aurait imaginé autre chose. Tandis que là, ben, la fosse, elle existe. Donc la fosse, elle fait partie de l'histoire du lieu. Comment réaménager ce lieu pour y présenter encore des animaux, puisque notre rôle, c'est de présenter des animaux. S'il n'y a pas d'animaux, c'est plus un zoo, c'est autre chose. Donc, on a imaginé tout ce dispositif en relation avec les contraintes du lieu.
Et pour cela, la ménagerie a du pain sur la planche. Fini par exemple les panthères des neiges, les derniers grands félins vont quitter le zoo pour laisser leur place dans la fauverie à des animaux plus petits. Dès 2024, les orangs-outans logés dans l'ancienne singerie prendront eux leur quartier dans une grande volière plus spacieuse. Coût de l'opération 3 millions d'euros. Et puis la mue du plus vieux zoo de France va se poursuivre dans les 10 années à venir avec la rénovation à 12 millions d'euros du bâtiment des reptiles, aujourd'hui coquille vide. Alors là, on s'enfonce dans la ménagerie du Jardin des Plantes. On passe entre les allées. C'est un vrai labyrinthe ici d'ailleurs. C'est pas facile de s'y retrouver. Bonjour, qu'est-ce que vous venez chercher ici ?
Bah, surtout les animaux pour la petite, voir des animaux qui sont pas domestiques, du coup qu'on n'a pas l'habitude de voir autrement que malheureusement dans les zoos. Moi je suis partagée, je sais qu'elle aime bien, Mais moi, j'en parlais encore ce matin, ça me fait de la peine. Bah, nous, on a eu la chance d'aller en Afrique du Sud et de les voir dans leur milieu naturel. Donc c'est vrai que moi, je le vois différemment. J'ai du mal, je le fais pour elles, mais c'est vrai que on les voit pas forcément heureux. Enfin, voilà, je trouve que dans l'attitude, ils sont différents de quand on les voit dans leur milieu naturel. Et c'est vrai que c'est, voilà, je suis partagée entre faire plaisir aux enfants et le bien-être des animaux. Quoi.
Bonjour monsieur.
Vous appelez comment ?
Yves Clarisse.
Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui déjà ?
Tout à fait par hasard, j'étais dans le coin pour un rendez-vous, donc je n'avais jamais vu le jardin des plantes. Je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil.
Mais alors qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici pour l'instant, vu que c'est une découverte, c'est ça ?
C'est une découverte, j'en avais quand même entendu parler. J'avais vu que le zoo était vieux et que l'espace pour les animaux était pour le moins réduit. Et bon, c'est mitigé, quoi. C'est un peu mieux que je le pensais. Je pensais que c'était encore plus petit que ça, mais c'est pas vraiment un zoo dont on sort, rasénéré sur le bien-être des animaux.
Donc c'est le manque d'espace. Qu'est-ce qui vous fait pencher dans ce sens-là, à part ça ?
Bah, le manque d'espace, d'abord, c'est ce qui frappe le plus. Les félins, par exemple, ou même les singes n'ont quasiment pas d'espace, en réalité, pour leur... On voit des enclos de, je sais pas, 10 mètres carrés réservés à des animaux dont on dit qu'ils peuvent parcourir 40 km par jour. On se dit que c'est pas vraiment leur place, quoi.
Alors du coup, qu'est-ce que vous avez apprécié pendant votre visite ?
C'est le programme de reproduction des animaux pour les remettre dans les espaces naturels. Mais moi, je pense que c'est quand même assez largement un alibi. Et franchement, comme les cirques qui commencent maintenant, je crois qu'il ne reste plus beaucoup de cirques qui font encore des spectacles d'animaux, je pense que les zoos sont condamnés, à part quelques réserves pour la reproduction d'espèces menacées. Mais sinon, ça n'a aucun sens.
Ces interrogations, ces doutes des visiteurs, on peut les retrouver à seulement quelques centaines de mètres de là, au siège de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Et ironie du sort, il se trouve rue Claude Bernard, du nom du célèbre professeur de physiologie comparé au Muséum d'Histoire Naturelle entre 1868 et 1878. La fondation, créée par des scientifiques et des avocats, se bat depuis la fin des années 70. Elle cherche depuis à convaincre les politiques de prendre en compte dans leurs décisions le bien-être animal. Sophie Hilde en est la directrice et elle estime que les zoos ne sont pas les arches de Noé modernes qu'elles prétendent être.
Alors, c'est pas si simple que ça. Arche de Noé, ça veut dire que les animaux disparaissent dans la nature et qu'il faut les conserver quelque part. Alors, nous, on est d'accord pour dire que les zoos conservent des animaux, mais est-ce qu'ils protègent les espèces ? Là est la question.
Qu'est-ce qui vous met justement ce doute ?
Une espèce, biologiquement parlant, en tout cas les espèces sauvages, elles doivent vivre dans leur milieu naturel. Alors le milieu naturel, de façon normale, évolue, donc les espèces s'adaptent. Là, pour le coup, on a des animaux sauvages qui sont transférés dans des milieux artificiels qui ne sont pas les milieux pour lesquels ils se sont adaptés.
Et qu'est-ce que ça pose comme problème ?
Alors ça pose des problèmes qui dépendent de l'animal. Il y a des animaux pour qui ça pose de plus gros problèmes, notamment les carnivores chasseurs. Ces animaux n'ont pas le loisir, dans le contexte du zoo, d'exprimer correctement leur comportement. On va les nourrir généralement de cadavres. Pour des lions qui chassent, c'est pas tout à fait un comportement naturel. Ça peut être la même chose pour des rapaces chasseurs qui sont en volière et qui ne peuvent pas exercer leur comportement. Il peut y avoir des conséquences au niveau du bien-être, avec des frustrations. Ça fait partie de la définition scientifique du bien-être animal. Si l'animal ne peut pas exprimer des comportements pour lesquels il est motivé, il va en ressentir une frustration et donc un mal-être. Mais il peut y avoir des adaptations purement comportementales, comme une perte de capacité à produire certaines vocalisations chez les oiseaux, par exemple, des pertes dans la capacité physique à migrer chez certains oiseaux, chez certains papillons, par exemple. Il peut y avoir une perte de force de la mâchoire chez les lions, des choses comme ça.
Est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour que ces animaux continuent à exister ou parfois leur milieu naturel n'existe plus ou sont en voie de disparition du fait de l'action de l'homme ?
Alors c'est une très bonne question et c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre simplement. C'est une question éthique et morale. Est-ce qu'une espèce doit survivre coûte que coûte ? Est-ce que aussi on peut aller plus loin? Est-ce qu'il serait bon de ressusciter les mammouths, par exemple, parce qu'on a récupéré leur ADN? C'est peut-être possible. Les animaux qui survivent en captivité le font dans d'assez bonnes conditions. Et là, tous les zones ne sont pas égaux.
C'est quoi ces éléments qui, pour vous, qualifient un bon élève ou un mauvais élève?
Aujourd'hui, certains zoos sont très médiatiques. Et ces zoos-là sont ceux qui mettent le plus d'efforts financiers pour avoir une bonne image. Alors, je suis sûre que les gens qui y travaillent le font aussi pour le bien-être des animaux. C'est pas du tout ça qui est en question. La question derrière, c'est ceux qui n'ont pas les moyens financiers de faire des enclos plus grands pour leurs animaux, d'ajouter de l'enrichissement pour leur rendre la vie un peu plus intéressante. Ces zoos-là, est-ce qu'on devrait laisser les animaux dans ces zoos-là? Les ours polaires n'ont rien à faire dans un zoo dans le sud de la France, par exemple. Notre avis, c'est que les zoos jouent beaucoup là-dessus. Ils vont mettre en avant leurs efforts de recherche dans le domaine de la conservation, mais dans les faits, on a beaucoup de mal à voir les effets concrets. Il y a toujours les mêmes exemples qui sont cités, et on peut se demander s'ils ne mettent pas en avant les choses qui leur donnent une bonne image. Ce qu'on aimerait vraiment, c'est qu'il y ait une vraie transparence sur les moyens alloués à la conservation des espèces. Donc c'est vraiment une question qui est beaucoup plus large et une question sociétale presque. Que veut-on pour nos animaux sauvages? Et les gens ont tendance peut-être à faire un peu trop confiance aux zoos en se disant que de toute façon, si les animaux sont là, c'est que tout va bien, ils sont autorisés à être là parce qu'ils sont bien traités, mais c'est pas forcément le cas.
Que vous soyez en France, vous n'avez pas pu manquer les affiches du zooparc de Beauval. On y voit des pandas, des lions, des koalas, des gorilles, des hippopotames au milieu d'une immense étendue d'herbes vertes et ce slogan « Passionner pour mieux protéger ». C'est tout l'enjeu, faire comprendre aux 2 millions de visiteurs annuels qu'au-delà des 800 espèces hébergées dans ce zoo XXL, le géant du Loir-et-Cher dédie chaque année 1% de son chiffre d'affaires, soit 2,5 millions d'euros, à une soixantaine de programmes de conservation à travers l'association Beauval Nature. Delphine Delors, directrice générale et directrice de la communication au zooparc de Beauval.
La communication autour de la préservation de la biodiversité est parfois un peu compliquée parce qu'il faut bien voir que nous sommes à la fois un lieu scientifique qui s'occupe des animaux, mais aussi un parc de loisirs. Et on tient à ces deux pieds. La majorité des gens viennent juste passer un bon moment en famille. Ils n'ont pas envie, surtout qu'on est vraiment maintenant abreuvé de mauvaises nouvelles et de mesures anxiogènes sur la planète. Ils ont simplement envie de passer un bon moment. En revanche, à partir du moment où on met un pied dans Beauval, on essaye de les attraper par tous les moyens. Et moi, je dis à mon service pédagogie, contre qui êtes-vous en compétition quand ils rentrent dans Beauval? Ben vous êtes en compétition contre les tigres, contre les pandas, parce que les gens sont venus voir des animaux. Et justement, ils viennent vivre un moment exceptionnel. Et je trouve qu'un parc zoologique est un moment de rencontre, où on va pouvoir sentir un animal, avoir des odeurs, des sons, pouvoir rester une demi-heure devant le groupe des gorilles, si on en a envie.
Comment on fait pour éviter, justement, les accusations de greenwashing? Comment est-ce qu'on évite cet écueil?
C'est tellement loin de notre profond sentiment et de notre profonde implication que je ne sais pas qui pourrait nous accuser de greenwashing.
Entre les intentions, est-ce que les détracteurs peuvent voir chez vous, il y a un gap?
En fait, toujours est-il que nous, on agit sur le terrain, réellement, et avec des moyens financiers importants, qu'on n'est pas obligé de le faire, qu'on le fait depuis 30 ans, bien avant qu'il y ait des problèmes de greenwashing ou des attaques d'anti-zoo. Et la seule réponse qu'on pourrait apporter, c'est « Et vous, qu'est-ce que vous faites sur le terrain ?» Et on le voit, on se contente pas d'envoyer de l'argent. On va sur place. Le directeur conservation est tout le temps sur des programmes. On a organisé des colloques avec l'UICN. On travaille avec des grandes institutions également. C'est tellement notre vie que... voilà, que je laisse dire nos détracteurs si j'en ai envie.
Vous, en termes de communication, qu'est-ce que vous prévoyez comme évolution, peut-être un changement de discours, parce que vous devez vous adapter aussi à l'évolution de la société, alors que ce soit en termes de format, de plateforme et puis de public auquel vous adressez sur ces trois points-là, est-ce que vous avez une vision un peu globale de vos plans de communication?
Oui, on est en train d'étudier la typologie de notre clientèle, c'est pour ça que je peux vous dire que trois quarts ne sont pas intéressés par cette préservation de la biodiversité. Donc on essaye de parler à tout le monde et on va déployer des moyens à la fois sur Beauval Nature. Et encore une fois, il est plus difficile de communiquer à l'avance parce qu'on a besoin que les gens viennent chez nous et viennent passer un beau moment, mais aussi de les réassurer peut-être sur cet aspect conservation et préservation de la biodiversité, ce que l'on fait quand ils sont sur place ou ce que l'on fait beaucoup sur nos réseaux sociaux. On a ouvert là toute une série de réseaux sociaux sur Beauval Nature spécifiquement. On va faire 1 million de vues sur des jumelles panda qui jouent et puis 100 000 sur un post sur la conservation. En fait, on voudrait en parler plus et on voudrait avoir une voix plus large, pouvoir porter à la connaissance du public des programmes de Beauval Nature, mais aussi d'autres programmes et puis des problématiques plus larges et relayer aussi la parole d'autres parcs zoologiques européens. Donc évidemment français en premier et puis européen. Donc on a un comité au niveau de l'Europe où on s'est dit qu'on allait partager toutes nos infos et les porter plus à la connaissance du grand public.
On arrive devant la serre tropicale des orang-outans, des chimpanzés et on les entend déjà.
Bonjour. Je m'appelle Éric Bayron-Rouve, je suis directeur sciences, espèces et conservation à Beauval et directeur conservation et gestionnaire de Beauval Nature.
Alors comment vous avez vu évoluer sur ces 20 dernières années peut-être l'importance de la conservation pour les eaux?
Il y a 30 ans, on commençait à peine à développer des programmes de conservation ex situ, donc des programmes d'élevage, c'était les premiers programmes. Aujourd'hui, les parcs zoologiques sont vus comme des institutions de conservation à part entière, avec un rôle à jouer à tous les niveaux, et pas simplement dans la réintroduction d'espèces, mais en tant qu'un des plus grands financeurs de la conservation des espèces en milieu naturel. Nous avons commencé très modeste en 2009, date de la création de Beauval Nature, avec 5 ou 6 programmes qu'on soutenait que financièrement et 85 000 euros de contribution annuelle. Aujourd'hui, on est à 63 programmes de conservation, 30 programmes de recherche et un budget qui, en 2023, va atteindre 3 millions d'euros. Et surtout aujourd'hui, non seulement on finance, mais on gère aussi des programmes de conservation et on gère directement. Par exemple, aujourd'hui, Beauval dirige un énorme programme de conservation au Congo qui s'appelle El Congo, un programme qu'on a repris, qu'on développe maintenant plus axé sur la conservation, la recherche et le développement des communautés locales. Parce qu'une des philosophies que nous avons et qui est intrinsèque, si on ne résout pas le problème humain, c'est même pas la peine de s'efforcer à conserver, à préserver, parce que ça ne marchera pas.
Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus dans le détail justement de Help Congo, qui est un des programmes que vous mettez le plus en avant, qui est un peu le fer de lance de Beauval en ce moment?
Et effectivement, il y a 2 ans, on a fait un gros saut dans tout ça. C'est de prendre ce très gros programme Help Congo, qui existait déjà depuis une trentaine d'années, qui était axé essentiellement sur un sanctuaire pour des chimpanzés. Et Help Congo a effectivement été le premier programme au monde qui a été capable de réintroduire des chimpanzés réhabilités en milieu sauvage. Et aujourd'hui, ils y sont encore présents. Mais notre idée en reprenant ce programme, c'était aussi de travailler plus en termes de connaissances, en termes de suivi de biodiversité, en termes de travail avec les communautés locales. Ce programme a pris beaucoup d'ampleur. On a actuellement près de 15 salariés en permanence sur le parc national de Konkwati-Douli, au Congo. Nous avons lancé un programme sur le lamantin africain, espèce très méconnue. Nous avons développé beaucoup de travaux communautaires. Par exemple, on a commencé en 2022 un programme extraordinaire qui s'appelle PPP, ça veut dire plages propres et protégées. C'est-à-dire les plages du parc national et de toute l'Afrique de l'Ouest, je dirais, elles sont remplies de plastique. Notre objectif, c'est de nettoyer à 100% et en permanence ces plages. Donc nous avons mobilisé des villageois que nous payons pour ramasser tous les jours les détritus de la plage, valoriser et recycler ce qui est valorisable et recyclable. Et je pourrais parler jusqu'à demain, ouais. Surtout ce qu'on va faire dans ce parc.
Non mais alors, c'est la conservation totale, vous n'êtes plus uniquement circonscrit au monde animal, vous allez bien au-delà. Ça c'est, vous pensez, une des innovations justement de ces 30 dernières années, cette approche n'existait pas jusqu'à maintenant ?
Votre question est très pertinente, parce que effectivement dans le développement de la vision de la conservation du monde, et pas simplement les eaux, où les eaux aujourd'hui ont effectivement un rôle reconnu par tout le monde, l'organisation qui, si vous voulez, chapeaute toute la conservation du monde s'appelle l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Or, l'UICN a récemment, quand je dis récemment, dans les 4-5 dernières années, développé un concept qui s'appelle le One Plan Approach. C'est-à-dire que la conservation nécessite qu'un seul plan et pas différents plans. Et c'est exactement ce que nous faisons à Conquati et la manière dont nous avons de travailler dans tous les programmes sur lesquels nous soutenons.
Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour constater ces progrès scientifiques. Ils font la fierté du parc zoologique de Paris, autrement dit le zoo de Vincennes. Et c'est dans ses laboratoires et sa clinique Dernier Cri que le vétérinaire en chef et directeur scientifique Alexis Lécu en apprend beaucoup sur les besoins de ses pensionnaires. Vous, justement, est-ce que votre vision, votre regard sur ce principe qui est un peu vague mais qui est assez large du bien-être animal, est-ce qu'elle a évolué pendant votre carrière ? Comment est-ce que vous le considérez aujourd'hui par rapport il y a 20 ans ?
Ah oui, elle a évolué avec mes yeux de vétérinaire. C'est-à-dire que je faisais des anesthésies, par exemple, d'un lion. J'en ai fait il y a 25 ans et j'en fais maintenant. Mais je ne les fais pas du tout de la même manière, avec pas les mêmes objectifs et pas avec la même surveillance. Et du coup, ça m'a fait changer certaines pratiques, parce que je sais qu'un animal qui est endormi avec tel protocole aura un meilleur réveil, et les jours qui suivront, il ira mieux, il aura récupéré mieux, et donc il sera mieux dans son groupe. Et la prise en compte du bien-être, elle était déjà importante pour le vétérinaire, parce que dès qu'il y a une composante de bien-être qui est entamée, il y a d'autres soucis qui vont en découler, donc il faut qu'on règle de toute façon, c'est un paramètre qu'on regarde tout de suite. Avant même d'endormir un animal, on va voir si dans son enclos ça va, s'il a chaud, il a froid, s'il a d'autres problèmes alimentaires, avant d'aller à l'action vétérinaire en tant que telle. Donc ça a toujours été une composante importante. Elle est plus affinée maintenant parce qu'on a des outils un peu plus fins pour l'objectiver.
En fait, c'est l'influence de la technique sur votre vision du bien-être animal. Je voulais savoir un peu aussi, par rapport aux évolutions de la société, comment vous, ça vous touche en tant que professionnel, en tant que personne qui travaille et qui est responsable dans un parc zoologique.
On avait déjà conscience que c'était quelque chose de super important pour que l'animal aille bien. On va dire que la société civile, en grossissant le trait, l'a découvert ces 10 dernières années avec plein d'actions qui sont liées aux animaux sauvages ou aux animaux domestiques. Nous, ça fait partie de notre grille de lecture d'un animal depuis longtemps.
Les zoos sont de plus en plus dans le viseur justement de la société civile, parce qu'il y a peut-être, comme vous le disiez, cette découverte en fait de l'importance du bien-être animal. Est-ce que vous percevez que c'est légitime ? C'est quoi votre vision de tout ça, cette indignation ?
Je les perçois toujours avec humilité, c'est-à-dire qu'on a toujours à apprendre, ça permet de se remettre en question sur plein de choses. Maintenant, ce que je condamne, c'est tout ce qui est très dogmatique et ne repose sur aucune réflexion scientifique. Je vais prendre un cas particulier, c'est l'analgésie, la lutte contre la douleur, qu'on appliquait un petit peu de manière systématique en faisant du copier-coller de ce qui se fait même en médecine vétérinaire d'animaux domestiques, chien-chat. On met un anti-inflammatoire volontiers quand on fait une opération, et puis voilà quoi. Donc ça c'était... Maintenant, avec ce qu'on sait de la médecine vétérinaire, avec cette prise de conscience que beaucoup plus d'animaux peuvent avoir de la douleur ou avoir les récepteurs qui font qu'on peut estimer qu'ils ressentent de la douleur, on a une palette qui est infiniment plus grande et qu'on va appliquer depuis le mammifère, donc le lion, la girafe, jusqu'au poisson. On va prendre en compte cette analgésie et on va adapter ça avec des molécules et des posologies connues, si possible à l'efficacité prouvée. Ça, c'est un truc qu'on ne faisait pas du tout il y a 20 ans.
C'est justement un axe sur lequel vous comptez travailler de plus en plus, le mettre en valeur, peut-être ce point-là en particulier ?
Ouais, on le fait petit à petit. C'est pas facile parce qu'en fait, il y a deux choses. Les gens, ils viennent voir des animaux. Après, de plus en plus, ils aiment bien voir comment ça marche derrière. comme dans tous les équipements, que ce soit un zoo, une centrale nucléaire, l'armée, ils aiment bien voir comment, c'est quoi les coulisses. Donc ça, on se sert de cette curiosité naturelle de l'homme pour aller lui montrer comment ça marche les coulisses du parc zoologique. Et là, bah, c'est là où on arrive à délivrer les messages de qu'est-ce qu'on fait vraiment pour la conservation, pour la recherche, quelles sont nos missions scientifiques, comment on fait progresser tout ça.
Bah voilà. Est-ce que vous pouvez me décrire où on se trouve ?
Alors là, on se trouve devant la baie, ce qu'on appelle la baie de vision, c'est-à-dire que c'est un passage coulisse qui n'est pas forcément obligatoire pour le public, donc il a l'impression de prendre, de rentrer un petit peu discrètement dans un endroit où il n'aurait pas le droit, mais en fait c'est prévu bien sûr, sur le chemin de visite, et puis il peut voir la salle de chirurgie en direct, voilà, donc il nous voit travailler.
Donc on peut vraiment assister, je sais pas, vous opérez un lion, un zèbre, on peut voir en direct ce qui se passe.
Exactement. Alors pour être, je vais être très franc avec vous, hein, avant qu'on ouvre le zoo, quand on nous a présenté cette option, on n'était pas pour parce que voilà, vous êtes dans une profession, on est vétérinaire, on n'a pas forcément envie d'avoir tout le temps des gens qui sont en train de regarder ce que vous faites. Donc j'étais pas hyper enthousiaste, c'est pour ça qu'on a un rideau à l'intérieur qu'on avait prévu de fermer. Et pour être encore plus franc avec vous, depuis qu'on a ouvert, on n'a quasiment jamais fermé ce rideau.
On quitte Paris, direction Thoiry et son safari. Ici, pas de grilles, pas de vitres, sauf pour les visiteurs, ce sont eux qui sont enfermés dans leur voiture au milieu des ours et des loups en semi-liberté. C'est depuis plus de 50 ans le Paris de ce zoo qui s'étend sur 150 hectares. Alors voilà, je me trouve devant quelques dizaines de mètres du château de Thoiry. Château assez impressionnant au milieu de cette... partie des Yvelines, entourée de champs, entre la forêt et les champs. Puis là, juste à gauche de ce château de Thoiry, un portail avec deux statues assez monumentales de lions, un peu noircies par le temps. On va rencontrer Christelle Bercheny, la PDG du groupe des eaux de Thoiry.
Bonjour.
Bonjour.
Christelle Bercheny.
Est-ce que vous pouvez, dans les grandes lignes, me refaire l'histoire du parc et du zoo de Thoiry ?
C'est un peu une aventure folle hein, qui commence en 1968 avec une famille châtelain qui se dit ben, pourquoi pas ramener un petit peu le monde animal aux portes de Paris dans un domaine qui faisait plus de 400 hectares. Ils ont eu cette idée de pouvoir mettre en place des animaux dans un parc, un espace libre, et c'était ça la grande innovation de cette année, puisque cette époque, puisque des ménageries existaient, des vestiaires existaient depuis le Moyen-Âge, hein, dans différentes zones, surtout en Grande-Bretagne. Là, c'était, encore une fois, cette première fois, c'était de dire, on va donner l'espace à l'animal, et puis enfermer les gens dans leurs voitures, puisque les voitures commençaient à se démocratiser fortement, et puis on ouvre un parcours de voitures au milieu de cette faune sauvage, qui était plutôt africaine à cette époque-là, complètement africaine même. Qu'effectivement, l'humain est plutôt contraint, de manière toujours confortable bien entendu, mais contraint pour pouvoir justement pas consommer l'animal mais être spectateur. Pour être complètement honnête, il y a 15-20 ans, c'était un point noir pour la clientèle, et c'est bien cela qu'on voit aujourd'hui. On a tenu bon. Donc ça, c'est à la fois l'avantage d'aujourd'hui, l'inconvénient d'hier, et on le sait, l'avenir de nos parcs animaliers, c'est vraiment de pouvoir offrir ce comportement naturel de l'animal dans un milieu en semi-captivité, bien entendu, mais effectivement, d'avoir ce comportement sauvage qui est à l'origine de tout ce qu'est l'animal. On travaille sur un plan à vision 2028. Il y a eu des premiers pas avec des innovations comme les tunnels, qui a placé l'être humain en dessous de l'animal et en gardant le côté prédateur de l'animal. Vous voyez ça au cours des gorilles qui était ouvert en 2021. En 2021 aussi, on a ouvert un hébergement qui s'appelle les tanières. Et encore une fois, on s'est inspiré d'une cabine de bateau, à la fois des tours d'observation qu'on peut avoir en forêt pour la chasse à l'image ou la chasse totale. Mais là, aujourd'hui, on a mis ça au service, encore une fois, de l'exploration et de l'expérience de l'être humain. Et c'est mis à l'abord de la réserve américaine. Et encore une fois, bah, c'est notre cher humain qui est conditionné dans cet petit espace. Hein. C'est un espace de 3 mètres sur 3 qui va observer toute la nuit et surtout entendre et mettre au service de cette expérience tous ses sens avec les animaux qui sont, eux, auprès de 10 hectares pour pouvoir justement vivre ce moment un peu privilégié au cœur de la nature, se rappeler qu'on est un animal comme les autres, mais que là, on est encore en une position d'observation, puisqu'on voit sans être vu les animaux durant 24 heures.
Voilà, donc là, au bord de la route, c'est typiquement ce qu'on peut voir à Thoiry, un ours noir qui se balade sur le bas-côté. On vient de faire le passage dans la partie safari, et c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas de transition, en fait. On passe d'un endroit à l'autre juste par ce passage canadien qui empêche donc les animaux de sortir avec ses rouleaux. Puis là, on se retrouve au milieu de la forêt. On vient de passer les autruches qui étaient à notre droite. Et donc là, on s'enfonce vers la tanière, les tanières, et peut-être les loups, si on a de la chance. Et donc là, on passe donc un des futurs projets, un des nouveaux projets de Thoiry, qui est donc, on est face à une butte, on voit des traces d'ailleurs d'engins de chantier, et donc c'est sur cette butte que seront construits quelques lodges pour accueillir les visiteurs qui voudront passer la nuit pas très loin des éléphants, qui vont du coup voir leur territoire augmenter de façon assez importante. Donc voilà, sur le modèle d'une hôtellerie un peu plus luxueuse que les tanières, ils sont en fait, si j'ai bien compris, des cabanes qu'on va justement aller voir. Voilà, donc là, on est dans une de ces tanières. Il y en a plusieurs dizaines ici. Et donc, une sorte de petit box avec un grand lit, voilà. Il y a des fenêtres. Voilà, donc là, à travers ces persiennes qu'on vient d'ouvrir, eh ben, on peut voir voilà, un coyote hein, qui nous regarde, nous aussi, un ours qui se balade au loin. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu en cage, parce que l'espace qui nous est accordé est bien plus petit que celui qui est accordé aux animaux. Donc on doit avoir un box qui fait 3 places, voilà, 3 personnes, à peu près 8-9 mètres carrés.
À terme, le zoo de Thoiry entend faire taire les grondements des moteurs des voitures, des visiteurs, pour laisser plus de place à ceux des grands fauves. Christelle Berchoni.
C'est vrai qu'on pense toujours à Thoiry comme étant le safari, on vient en voiture, voiture individuelle. Peut-être que c'est quelque chose qui est voué à disparaître, ou en tout cas être de plus en plus limité. Comment est-ce que vous comptez vous adapter à ces nouvelles problématiques? C'est ça aussi l'évolution des zoos aujourd'hui, et de Thoiry en particulier.
Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on parle de circulation douce, on parle d'économie d'énergie, on parle de véhicules propres. Aujourd'hui, on voit bien qu'à certains moments, quand vous avez 8000 personnes sur le site, ça peut être un peu le périph' parisien, on en est conscient. D'ici 2026 même, nous travaillons sur un projet de circulation douce qui va joindre un peu toutes les énergies propres que l'on connaît, aussi bien l'homme qui marche, puisqu'on a pour projet de construire des grandes passerelles qui vont connecter le parc à pied et les réserves. C'est de redessiner un petit peu l'ensemble de la réserve pour offrir aussi une vraie aventure avec un véhicule qui est en train de se dessiner complètement et uniquement pour Thoiry, un véhicule propre évidemment, et à terme, c'est ici 2026-2028, c'est de supprimer évidemment la voiture personnelle et thermique à l'intérieur du parc, mais de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de monde dans le safari, mais que ça reste un moment privilégié et une vraie expérience, qu'on retrouve aussi les lettres de noblesse de cette réserve avec des animaux qui sont complètement en liberté, et vous qui n'arrivez là qu'à 10 km/h, et donc vous risquez plus rien.
Des parcs zoologiques, un reportage de François Chagnot avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de ce grand reportage, deux historiens spécialistes des relations entre les hommes, la nature et les animaux, Éric Baratet et Valérie Chansigaud. Alors j'ai une première question sur les appellations, parce qu'il y a le safari de Peaugres en Ardèche, le bioparc de Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire, le zooparc de Trégomeur dans les Côtes-d'Armor, la réserve zoologique de la Haute-Touche dans l'Indre. Éric Baratet, est-ce que chacun de ces mots a un sens différent? Est-ce que c'est juste de la com ou est-ce que c'est lié à l'histoire de chaque site?
Oh, c'est lié à beaucoup de communication, hein. C'est-à-dire qu'il y a, parc, il y a réserve. Ça a été dit par l'un des intervenants, hein. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, ces établissements ont voulu bien se séparer des petits zoos urbains et ont beaucoup communiqué sur l'augmentation très importante à l'époque, hein, l'augmentation très importante de la superficie de ces établissements. D'où le terme de parc de réserve, de zooparc maintenant, où on essaye de ou de bioparc, de montrer qu'on est finalement, on rentre lorsqu'on va dans ces établissements, on rentre un peu dans des espèces de réserves de nature et de faune préservée. Là, on est évidemment en grande partie dans de la communication parce que ça reste évidemment des espèces, des espaces de contraintes pour les animaux, même si les espaces sont beaucoup plus grands que, par exemple, à la ménagerie du Jardin des Plantes, et même s'il vaut mieux ça que la ménagerie.
Alors, juste petit repère historique, de quand date le premier zoo qu'on visite?
Alors, le premier zoo qu'on visite actuellement, c'est la ménagerie du Jardin des Plantes.
D'accord,
hein, qui date de la Révolution française. Okay. Alors le gros problème de cette ménagerie, c'est qu'elle a très peu évolué, un peu dans les années 30 comme ça a été dit, et que elle pose beaucoup de problèmes parce qu'ensuite les bâtiments ont été sont classés, sont monuments historiques, etc. Et ça devient de plus en plus un problème pour loger des animaux, d'où le fait qu'on enlève les plus gros et qu'on se replie sur des petits. Mais je crois que là plusieurs fois la France a raté le coche. Il aurait fallu, notamment par exemple au moment de la rénovation de Vincennes, transformer la ménagerie, y enlever les animaux et en faire par exemple un musée d'art animalier en espace libre, en aérien, aurait été à mon avis plus judicieux que essayer sans arrêt de tout transformer. Ça n'enlève jamais les critiques du public, on les a entendues.
Oui, pour vous aussi, Valérie Chansigaud, la ménagerie du Jardin des Plantes, certes, elle fait encore le bonheur des petits parisiens, mais elle n'a plus vraiment son sens pour vous aujourd'hui?
Tout dépend, en fait, le projet, le type d'espèces qui sont montrées. Il y a quelques années, il y avait le microzoo, qui était une idée absolument géniale, où on montrait, en fait, la microfaune du sol à l'aide de loupes binoculaires. Ça permettait vraiment d'avoir une vision totalement différente sur des espèces bien vivantes qu'on pouvait voir évoluer grâce à ces outils d'observation que le grand public connaît pas du tout. Et ça pourrait être aussi une solution pour continuer à avoir un espace didactique avec des espèces dont la souffrance est soit plus maîtrisable, soit moins visible. Après, il y a d'autres questions qui peuvent se poser.
Alors, idée géniale, dites-vous, mais qui n'a pas perduré?
Alors, à ma connaissance, il n'existe plus. Il y a quelques années, il a disparu et je ne crois pas qu'il soit à nouveau installé. Et c'est vraiment dommage parce que c'était une très, très, très jolie idée.
Et alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que c'est parce qu'il y a les animaux vedettes que tout le monde veut voir, comme le panda, le lion, et puis ceux qui intéressent beaucoup moins, qui restent dans l'ombre?
C'est clair, quand on regarde dans n'importe quel jardin zoologique, un temps soit peu important, où se dirige l'essentiel des visiteurs, les temps d'attente, il y a quand même des têtes d'affiches, très clairement, et puis d'autres qui sont plus difficilement visibles ou fréquentables. Je me souviens par exemple d'une D'un enclos où il y avait des chauves-souris frugivores dans un jardin zoologique en Allemagne, parce que l'Allemagne est vraiment le paradis des jardins zoologiques. Toutes les villes en comptent, et souvent à au centre des villes, c'est pas en périphérie et tout petit, c'est vraiment des institutions absolument colossales. Et cette salle où il y avait des chauves-souris était particulière parce que ça sentait le guano, donc des odeurs très très fortes. Mais c'est ça aussi la nature, c'est ça aussi au fait que d'avoir un contact avec la faune, c'est aussi parfois des choses qui sont assez étrangères, pas forcément l'archétype.
C'est ça aussi la nature, mais est-ce que c'est ce dont le public a envie ?
En fait, ça, c'est une question que le reportage a très bien montré, très bien mis en lumière. C'est que, en quelque sorte, les jardins zoologiques sont entre eux deux réalités antagonistes, c'est-à-dire à la fois c'est des lieux de spectacle. En fait, les gens, on doit montrer les animaux. Enfin, il y a vraiment un côté salle de spectacle où il y a des animaux vivants que l'on vient observer, et à la fois cette dimension de conservation, ces projets scientifiques qui sont parfois tout à fait réels et importants, et quelque part une sorte de distorsion antagoniste. Est-ce qu'on peut être à la fois une institution scientifique et à la fois un lieu de spectacle? Je suis pas absolument convaincu. Je suis même pas sûr qu'il en existe d'autres formes.
Alors, Éric Baratet, François faisait tout à l'heure référence à la Convention de Washington de 1973 sur le commerce international des espèces menacées d'extinction. Est-ce que c'est justement l'évolution des lois qui force les zoos à se remettre en question et à essayer d'évoluer de manière plus ou moins évidente ?
Oui, l'évolution des lois et surtout l'évolution de l'opinion publique, la pression de l'opinion publique, parce que la plupart des zoos sont des institutions privées. Et elles ont besoin de visiteurs pour survivre. Et d'ailleurs, les institutions privées sont beaucoup plus attentives à renouveler leur présentation que les institutions publiques, qui ont beaucoup plus de mal parce qu'il faut aller quémander auprès de l'État. Et les renouvellements se font beaucoup plus lentement. Et alors, c'est vrai que cette interdiction a bouleversé les zoos parce que... ils ne peuvent plus depuis aller puiser dans la nature, aller puiser de nouveaux animaux. Ça leur a permis un aspect positif, c'est qu'à partir des années 70 et surtout 80, pour contrer une très forte contestation des zoos qui a eu lieu dans les années 60-70, elle revient maintenant, mais elle a eu lieu dans les années 60-70, pour contrer cela, on est parti sur tout ce qu'on a entendu, c'est-à-dire l'idée d'une conservation de la nature. Le point négatif, c'est que maintenant, les animaux qui sont en zoo, c'est une espèce de population fermée. Heureusement, on ne peut plus approvisionner avec des animaux sauvages. Et cette population fermée, elle est en faible nombre. Même si vous prenez tous les zoos à l'échelle mondiale, elle est en relativement faible nombre. Et on a obligatoirement des problèmes de consanguinité. Donc il faut faire très attention. Et maintenant, il y a des réseaux mondiaux d'échange des progénitures entre zoos à l'échelle mondiale. Mais il y a aussi des phénomènes de dérive génétique. Ce qui fait que ces animaux, cette population qui maintenant vit et se reproduit en zoo, est en train de s'éloigner progressivement, génération après génération, de ses cousins sauvages. Et on a affaire en fait à une espèce de domestication rampante. Ce qui fait qu'on peut dire qu'on est en train, avec les zoos, depuis les années 70, d'inventer un troisième groupe d'animaux. Il y a les animaux dits sauvages, il vaudrait mieux dire libres, et puis les animaux domestiqués. Et entre les deux, là, on a cette population qui est en voie de domestication rampante. Ce qui fait qu'on ne peut pas, on peut faire de la conservation avec ces animaux-là, mais ce ne sont plus des animaux sauvages. Ça, c'est le problème des zoos qui communiquent beaucoup sur la conservation, mais c'est pas. Il faudrait qu'ils arrivent à avouer qu'ils ne conservent pas des animaux sauvages. Ils conservent des animaux qui maintenant se reproduisent en captivité. Et ils sont en train d'en prendre conscience, d'ailleurs, et on voit bien, on a eu toute la présentation sur à propos de Beauval, je crois. Ils sont en train d'en prendre conscience, puisque maintenant, ils communiquent beaucoup sur la conservation, mais sur place. Hein, et ça, en fait, c'est la seule conservation possible, sur place, en Afrique, en Amazonie, etc., etc., parce que c'est pas avec les animaux de zoo, on ne parle plus de réintroduction. Dans les années 70, les zoos communiquaient beaucoup sur la réintroduction. Vous allez voir, avec nos animaux, on va les réintroduire. On sait que ça n'est pas possible.
On a entendu, effectivement, là, oui, on a entendu dans le reportage, effectivement, que c'était particulièrement compliqué. François Chagnot ?
Oui, vous évoquiez le fait qu'on est face à un troisième genre d'animaux, en fait, des animaux quasiment domestiqués. Ça présente un intérêt scientifique, hein, pour les zoos, notamment aux zoos de Vincennes. Lorsque j'ai discuté avec Alexis Lécu, donc le directeur scientifique et vétérinaire en chef du zoo, il m'expliquait tout l'intérêt d'avoir une population isolée de son milieu naturel, ce qui permettait notamment de réaliser des études. Voilà, il y en a une dont il est l'auteur sur la transmission du Covid, et donc des intérêts qui peuvent s'appliquer ensuite même à la médecine humaine, aux trajectoires de certains virus, de certaines pandémies, comme ça a été le cas. C'est une perspective qui n'est pas intéressante, selon vous?
Si, bien sûr. Mais je pense que les zoos auraient intérêt à communiquer franchement là-dessus, au lieu de s'enquister, parce que ça va devenir une impasse pour eux. Au lieu d'insister sans arrêt sur « nous avons des animaux sauvages », la personne sur Paugre parlait d'animaux en liberté, ce qui est évidemment totalement faux. Il ferait bien mieux d'avouer à la fois de financer la conservation sur place et puis d'avouer que finalement, les populations qu'on a, on va pas les tuer. On peut pas les renvoyer dans la nature. Eh bien, on les conserve, on les fait se reproduire et on travaille avec elles. Et on pourrait très bien aussi montrer au public, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une population d'animaux dans les zoos. On sait maintenant, par exemple, que ces populations d'animaux sont en train de créer des cultures tout à fait particulières. Ça a été montré dans les zoos de Californie. Les chimpanzés de zoo à San Diego, par exemple, ont inventé leur culture en groupe, hein, parce qu'ils vivent ensemble dans un espace donné. Et cette culture-là n'est pas celle des chimpanzés libres du fin fond de l'Afrique.
Alors Valérie Chansigo,
il faut mieux communiquer là-dessus.
Valérie Chansigo, ce sur quoi il communique beaucoup les zoos, c'est sur les naissances. Hein, il les célèbre, celles en particulier des pandas, que ce soit panda géant, panda roux. Et c'est vraiment des événements, des feuilletons. Il y a toute une communication importante là-dessus. Même si il faut souligner que parfois, il faut beaucoup d'efforts, hein, pour faire se reproduire certains animaux, comme les pandas justement.
Oui, ou les éléphants, par exemple, qui ont un taux de reproduction beaucoup plus faible dans les jardins zoologiques que dans la nature. Ce qui est probablement un signe aussi de l'incapacité que l'on a de faire vivre correctement des animaux comme ça dans un jardin zoologique. Clairement, on assiste à la disparition progressive des éléphants dans les jardins zoologiques, au moins dans les pays, on va dire, occidentaux. Donc, il y a de toute façon un problème derrière tout ça, c'est que quels que soient les... Il faut à la fois être juste, c'est pas les jardins zoologiques qui créent, vraiment, sauf quelques exemples en définitive marginaux, la disparition des espèces, mais c'est pas non plus les jardins zoologiques qui vont aider à la sauvegarde des espèces, sauf là aussi des exemples en définitive assez marginaux. Et c'est bien là le problème, c'est qu'une partie de la justification qui est apportée comme quoi ça serait le plus gros financement de la protection de la faune sauvage, c'est quand même franchement un peu gonflé de dire ça, parce que c'est pas vrai, clairement. Mais il faut bien voir que face à la dégradation très profonde et très rapide de la nature, les jardins zoologiques, de toute façon, pèsent quasiment à rien du tout. Donc, je sais pas comment dire, mais les arguments avancés ne tiennent pas parce que, de toute façon, le contexte est tel que même s'ils font des efforts, même si ces efforts sont importants, ils restent dérisoires par rapport aux enjeux actuels.
Et alors la dimension pédagogique, Éric Baratet, parce que dans certains parcs, les enfants peuvent jouer un rôle d'apprenti soigneur. Il y a énormément de discours à l'attention des enfants, en particulier hein, du jeune public, pour les sensibiliser à la cause animale. Est-ce que le zoo est un lieu approprié pour ça ?
Là aussi, c'est une disposition qui date des années 50-60, hein, lorsque la contestation s'est mise à monter. C'est le, par exemple, la ménagerie du Jardin des Plantes qui a relancé, au début des années 70, un programme éducatif vis-à-vis des enfants. Et les zoos se sont engouffrés là-dessus, ou là-dedans. Est-ce que c'est leur place ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ils communiquent beaucoup là-dessus, ils font des choses aussi. Là où c'est contestable, c'est qu'obligatoirement, ils vont... comment dire ? Ils vont développer une vision biologique des animaux. C'est-à-dire que les animaux seraient des êtres uniquement biologiques dont le comportement serait le même, quel que soit l'endroit. Or, nous savons maintenant que, par l'éthologie, que c'est évidemment faux, et qu'une grande partie des comportements d'une espèce ou d'un groupe se détermine en fonction de l'endroit. Hein, donc, si c'est pour nous faire croire que finalement, devant nous, dans la cage ou dans l'enclos, nous avons un animal naturel, ça n'est pas de la bonne pédagogie. Il vaudrait bien mieux dire, ben voilà, il est en captivité, mais ça ne veut pas dire qu'il est en mal-être, forcément. Ça ne veut pas dire qu'il est souffrant, forcément. Et puis voilà, il développe une vie différente. Ce groupe-là va développer une vie différente. Et quelle vie développe-t-il ? À s'enfoncer ou à s'enfermer dans cette idée de réserve naturelle, les parcs zoologiques vont aller vers de plus en plus de contradictions. Et d'ailleurs, à mon avis, si la contestation revient de nos jours... Elle avait été très forte dans les années 60-70, elle avait disparu quasiment entre les années 80 et 2000, en grande partie grâce à ce discours sur conservation, etc., etc. La contestation revient maintenant. Pourquoi ? Parce que les scientifiques ont montré, et c'est en train de se diffuser par les médias, dans l'opinion publique, que les animaux de zoo ne sont pas plus des animaux sauvages. Et donc on ne conserve pas des animaux sauvages. Et je pense qu'il faudrait au bout d'un moment qu'ils acceptent cela et puis qu'ils changent leur fusil d'épaule et qu'ils nous fassent par exemple une pédagogie. Oui, ben oui, on a un panda, mais c'est un panda qui vit en captivité. Et dans le domaine de cette captivité, ben, il se comporte de telle ou telle manière.
Valérie Chansigo, si au nom justement de la protection de l'environnement, on voyage moins en avion, on va moins dans des zones protégées, est-ce que le zoo n'est pas quand même un lieu de proximité avec les animaux et la vie sauvage, entre guillemets ?
On peut avoir de la proximité avec de la vie sauvage dans bien d'endroits, pas forcément dans un endroit qui a été créé pour cela. Il suffit d'aller observer un petit peu des coins de nature. Alors, bien sûr, un champ de maïs, la vie sauvage est relativement faible, mais il y a bien des endroits, parfois extrêmement petits, où il y a de la vie sauvage à observer. Simplement, là, c'est toujours cette démarche un petit peu économique et consumériste qui consiste à venir dans ces endroits pour voir, comme vous le disiez tout à l'heure, des animaux charismatiques, des têtes d'affiche que l'on veut absolument voir. C'est sûr que ça serait assez difficile à mobiliser les gens en disant, vous voyez, là on va observer une bouse de vache parce que la faune de la bouse de vache est absolument passionnante, alors que la faune de la bouse de vache est absolument passionnante.
Comme les asticots, par exemple.
Autres.
Merci Valérie Chansigo, merci Éric Baratet. La mue des parcs zoologiques, le grand reportage de cette semaine était signé François Chagnot, réalisation Annie Brou avec Jean-Frédéric à la technique, merci à la documentation de Radio France. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr.